Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Moins d'un maire sur deux va se représenter lors des élections des 15 et 22 mars. C'est ce qu'affirme une enquête d'opinion du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, réalisée en partenariat avec l'Association des maires de France et dévoilée en novembre. Aux dernières municipales, en 2014, 27% des maires ne s'étaient pas représentés. Pour mieux comprendre ce ras-le-bol, Code Source a choisi de donner la parole longuement à l'un de ses élus qui jette l'écharpe. Témoignage recueilli par Claudia Prolongeau.
Quand j'ai découvert les résultats de cette enquête, j'ai été très surprise. J'avais déjà entendu qu'être maire n'était pas toujours facile, mais je ne savais pas, en revanche, que pour certains, c'était un véritable calvaire.
Bonjour.
J'ai donc cherché quelqu'un qui pourrait raconter pourquoi il jetait l'éponge. Et c'est comme ça qu'un jeudi matin, je suis arrivée à Sacy-sur-Marne, un village de 1800 habitants, en Seine-et-Marne, à quelques kilomètres de la Champagne-Ardenne.
Bonjour.
Allez-y, entrez.
Merci.
Ma secrétaire d'accueil qui dit Monsieur Cheval arrive.
Non, ah non, c'est pas Monsieur Cheval.
Pierre-Emmanuel Beigny avait déjà eu une expérience en politique.
Bonjour.
Sous Nicolas Sarkozy, il a été chef de cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement. Puis il a travaillé dans le privé, avant de se présenter en 2004 au municipal à Sacy-sur-Marne, sous l'étiquette divers droite.
C'était pas du tout prémédité d'être maire. L'idée a germé, on va dire, presque 4-5 mois avant les élections. C'était le village de mon enfance, village où j'ai appris à faire du vélo. Avec mon frère, ma sœur et mes amis, on se baignait dans la Marne chez mes parents, qui avaient une propriété ici depuis les années 80. Et en fait, les différentes politiques qui avaient été menées jusqu'à présent ne me convenaient pas. Et on arrivait sur un village qui mourait de plus en plus, qui périclitait avec énormément de retard dans les infrastructures. On s'est dit, avec une femme qui habitait à Sacy, donc sa famille était une vieille famille de Sacy, on s'est dit, bah, tentons l'aventure et essayons de conquérir la mairie pour faire avancer les choses et apporter notre pierre à l'édifice. On va tenter notre chance et puis sur un malentendu, ça pourrait passer. Et c'est passé.
À ce moment-là, Sylvie Montembeau, l'adjointe dont parlait Pierre-Emmanuel Beigny, entre dans le hall de la mairie et se joint à nous.
Sylvie, vous savez qui c'est
maintenant ? Je sais qui c'est. Bonjour, enchantée. Claudia Prolongeau, je travaille au Parisien. Parisien, d'accord.
Ouais.
Membre de l'ancienne équipe municipale, elle était en guerre permanente avec la maire de l'époque.
Au début, on n'était que deux. Hein.
Ouais, ouais.
Faire des porte-à-porte et tout, on se gelait, c'était il y a 6 ans, au mois de février, comme ça. Là.
Ah oui, il faisait froid.
Quand vous avez décidé de commencer à faire campagne ?
Oui, quand on a décidé de faire le porte-à-porte il y a 6 ans. On se caillait et tout, mais ce qui nous réchauffait, c'était le retour des administrés, en fait, des gens qui nous disaient qu'ils en avaient marre de l'équipe en place et qu'ils souhaitaient changer, et qu'un jeune avait épaulé par des anciens élus autres, ça serait pas mal. La campagne municipale n'a pas été simple, hein, 3 listes. Pour une petite commune comme Sacy, c'était quasiment historique. Et sur ces 3 listes, on est arrivé en tête au premier tour et très largement en tête au second tour.
L'élection d'un maire se passe en 2 temps. D'abord dans les urnes, où les électeurs votent pour une liste, puis lors du premier conseil municipal, où tous les membres élisent officiellement le maire. Le 4 avril 2014, Pierre-Emmanuel Beigny devient donc officiellement maire de Sacy-sur-Marne.
Donc moi j'ai été élu le jour de mes 30 ans,
Je me rappellerai hein, toute ma vie, je pense. Hein. Et une fois que j'étais élu maire, donc certains de mes proches, très sympas, me disaient bah, « Bravo, tu es maire, c'est une belle expérience, etc. » Et d'autres me disaient bah, « Bon courage, tu viens d'en prendre pour 6 ans ferme sans remise de peine. » Et à l'époque, je n'imaginais pas à quel point ça serait vrai 6 ans après.
Et les difficultés ne se font pas attendre.
Bah dans nombreuses mairies, en fait, vous avez une passation qui est faite où vous avez pendant peut-être une heure ou deux l'ancien maire qui passe le relais au nouveau maire. C'est un protocole qui est plutôt républicain et ça se fait dans de nombreuses collectivités. Enfin, moi, quand je partirai dans quelques semaines, je laisserai à mon successeur une liste des choses à faire, des dossiers en suspens et puis des points à régler rapidement. Et quand nous, on est arrivés, on n'a rien eu de tout ça. L'ancienne maire qui était là est partie, on est sans rien. J'ai trouvé mon bureau, il n'y avait rien, il y avait un sous-main et un crayon. Donc finalement, c'est comme si je vous donnais les clés d'une énorme maison avec 19 employés, avec 2000 personnes qui vivent dans votre grande maison et son grand jardin. Ça, si, c'est un jardin de presque 1400 hectares et vous devez tout découvrir. Donc découvrir des choses qui sont mais de plus basiques, c'est-à-dire que vous avez l'école maternelle, l'école primaire, on ne sait absolument pas où sont les armoires électriques, où est le système de chauffage, comment on l'allume, comment on le régule, comment on l'éteint. En mairie, les systèmes d'alarme, personne ne nous a donné les codes, il a fallu qu'on se dépatouille. Enfin, vous voyez, c'était vraiment retrouver des clés, se faire des clés page générale, etc. Donc il a fallu qu'on reprenne tout de A à Z. Je savais qu'on allait devoir gérer ces différentes problématiques, même ouvrir le cimetière le matin, le fermer le square, la même chose. Mais j'imaginais pas à quel point ça allait être aussi chronophage. Surtout dans les appels qui sont, vous savez, quand vous êtes maire, vous n'avez pas de vacances, pas de week-end, pas de nuit, on vous appelle H24.
Okay, bon, on va aller dans mon bureau,
nous rejoignons le bureau que, pour la première fois, Pierre-Emmanuel Beigny avait découvert vide et que depuis, il a décoré.
J'ai plusieurs médailles. J'ai une médaille donc, de mon ancien ministère où je bossais, en relation avec le Parlement. Je dois avoir une médaille des services de police et de police ferroviaire auprès de qui j'ai fait des stages. Après, j'ai un hélico de la gendarmerie, donc un hélicoptère de la gendarmerie. Alors ça, c'est parce que moi, je voulais être pilote d'hélico au départ, gendarmerie. Sauf que quand j'ai passé les tests, ma myopie m'a arrêté net. Donc je suis pilote d'hélicoptère dans le civil. Mais en fait, j'avais été voir donc, ces services hélicoptère gendarmerie, donc m'avait laissé en souvenir cet hélico.
Pour vous consoler de votre myopie.
C'est ça, mais j'avais fait un tour d'hélico aussi avec eux, donc c'est plutôt sympa.
Et je vois votre écharpe de mer.
Ouais, l'écharpe de mer qui est derrière moi. Je m'en sers exclusivement pour les cérémonies commémoratives et puis les mariages.
Et ça vous émeut quand même de la porter ou pas spécialement ?
Du tout. Du tout, parce que j'ai jamais été très attaché à la fonction et en tout cas ce qu'elle. Enfin, attaché à la fonction. Je suis pas attaché à l'artefact de la fonction, c'est-à-dire que je me regarde pas dans le miroir tous les matins avec mon écharpe tricolore. Quoi.
Quelques jours après son élection, Pierre-Emmanuel Beigny est déjà confronté à ce qui restera les moments les plus douloureux de son mandat.
Vous êtes élu maire du jour au lendemain, donc en l'espace de 24 heures, vous êtes avec un poids de responsabilité sur les épaules immédiat. Et finalement, même pas une semaine après mon accession donc, au poste de maire, une personne se fait écraser devant l'école au moment de la sortie des classes. Et vous êtes projeté immédiatement dans l'urgence, c'est-à-dire que vous avez un accident mortel. En plus, cette personne âgée, moi je la connaissais. Vous mettez de côté les sentiments, vous n'avez pas le choix, c'est la fonction qui l'exige. Il faut éviter que les badauds prennent des photos, il faut éviter que les gens s'attroupent pour regarder, parce que vous avez toujours cette curiosité un petit peu malsaine, et puis avec les réseaux sociaux, vous avez immédiatement des gens qui prennent des photos ou qui filment. Donc voilà, avec la police municipale, il faut coordonner tout ça, plus les gendarmes qui vous posent un milliard de questions, plus les pompiers qui, eux aussi, ont des questions parfois administratives au maire. Une semaine après cet accident gravissime, je me retrouve avec l'obligation de faire un arrêté municipal pour interner une personne qui était en psychiatrie, qui souhaitait se procurer des armes pour l'utiliser dans la rue. Et vous ajoutez à tout cela la découverte d'une nouvelle mairie, également des finances qui sont pas forcément au beau fixe, et puis des dossiers en pénitence. Et voilà, il faut s'en occuper immédiatement.
Les budgets des collectivités sont votés généralement mi-avril. Pierre-Emmanuel Beigny et son équipe ont donc 2 semaines pour se mettre d'accord sur l'utilisation des finances de la ville. Ils découvrent à cette occasion que l'ancienne équipe a rénové la mairie à grands frais et sans aucune subvention.
Nous, on a retrouvé donc situation où, en fait, un investissement, il y avait des dépenses qui avaient été faites de manière, pas somptuaire, mais quand même assez, assez forte. Et on s'est retrouvé la première année avec un déficit de moins de 100 000 euros. Donc, il a fallu reprendre tout ça. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une situation de la commune où on a presque un excédent budgétaire de 850 000 euros pour nos, mes successeurs. Donc, c'est plutôt confortable d'avoir plus d'argent dans les caisses que d'arriver avec un déficit important.
Pour Pierre-Emmanuel Béni, la difficulté du travail de maire se résume à deux choses que les élus nationaux ne connaissent pas. La diversité des problèmes auxquels ils sont confrontés et surtout la réactivité dont ils doivent faire preuve à chaque fois.
Quand vous êtes maire, vous êtes au quotidien confronté à des questions à résoudre, à des problèmes à résoudre. Hein. Vous savez, quand on vient vous voir en disant « Monsieur le maire, on a un souci parce que, je ne sais pas, le ruisseau déborde, ça inonde nos caves, il faut trouver des solutions. » Quand on vient vous voir, vous avez une femme isolée qui vient vous voir, comme encore on a eu la semaine dernière, qui malheureusement se fait battre par son mari, elle a quatre enfants placés et dans une situation sociale extrêmement compliquée. Il faut trouver des solutions immédiates. On ne peut pas leur dire « Écoutez, repassez nous voir dans un mois et puis on en reparle. » Donc en fait, maire, je pense que c'est vraiment l'école du pragmatisme. Vous êtes confronté à des vraies difficultés de terrain. La crise des gilets jaunes, on dit souvent, nous on l'a vu venir, hein. Vous savez, c'est venu d'un phénomène qui est assez récurrent ici, c'est le prix du diesel, enfin le prix du carburant. Nous, dans les milieux ruraux, on l'a vu immédiatement parce que les gens aujourd'hui n'utilisent pas leur voiture pour aller faire du circuit ou des rallyes, hein. Ils utilisent leur voiture pour emmener les enfants à l'école, pour faire leurs courses, aller bosser. Mais en fait, quand le prix du diesel était de plus en plus élevé, vous avez des gens qui avaient déjà du mal à finir les fins de mois, mais en plus, quand vous devez faire le plein de votre voiture et que ça vous coûte quasiment un tiers de plus sur le budget, bah derrière, vous avez des mécontentements qui montent. Donc, toutes ces difficultés-là, toutes ces problématiques auxquelles on est confronté, finalement, ça ferait du bien que nos élus un peu nationaux aient été confrontés à ça une fois dans leur vie. Parce qu'un ministre qui entend parler que l'essence, que le diesel, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui coûte de plus en plus cher, bah vous vous dites, mais comment on va apporter, enfin, là, il faut qu'on apporte une solution. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse la TIPP, on baisse les taxes, on baisse la TVA. On apporte une solution immédiate pour ne pas que les gens en pâtissent, quoi. Mais malheureusement, dans une société où vous avez des ministres et un exécutif qui est un petit peu déconnecté des réalités, bah c'est compliqué de prendre des bonnes décisions, quoi. Vous savez, je dis, quand l'État décide, les maires trinquent sur le terrain. On l'a vu avec la réforme des rythmes scolaires, où l'État décide de sa réforme, je ne juge pas sur le fond, mais vraiment sur la forme, décide que voilà, dans un claquement de doigts, on va réformer complètement le rythme des écoles. Sauf qu'on vous impose ça en mairie, c'est à vous, le maire et ses équipes, de vous débrouiller sur le terrain, à mettre en application une loi qui n'est pas simple à mettre en œuvre au niveau des plannings, au niveau des réorganisations du temps de travail pour les agents qui sont dans les écoles. Mais ça, personne ne vient nous aider. C'est-à-dire que, en gros, l'État décide et les maires sur le terrain, vous démerdez, en gros, vous mettez en application ce qu'on vous demande. Et puis vous passez aussi à la caisse, parce que derrière, quand il y a une augmentation de coûts des salariés ou autres, c'est immédiatement les mairies qui prennent ça en charge. Le plus difficile, c'est quand j'ai dû annoncer à sa maman un dimanche matin qu'un jeune garçon de 21 ans, enfin son fils, était décédé d'un accident de la route en rentrant en plus de l'anniversaire de son frère. Et pareil, ce jeune, je le connaissais aussi, c'était un des meilleurs amis d'un de mes policiers municipaux également. Mais quand vous devez l'annoncer à cette maman, qui comprend immédiatement, hein, quand elle vous voit arriver encadrée de trois gendarmes, elle comprend qu'un drame s'est déroulé, c'est assez compliqué. Assez compliqué, parce que même si vous mettez de la distance, ça vous rattrape toujours de toute façon.
Mais ce qui finalement lui a le plus pesé, c'est peut-être le fait que le maire soit en permanence interpellé et montré comme responsable de tout par les habitants.
Un dimanche à midi, je suis avec des amis en train de faire un barbecue. Vous avez un administré qui arrive dans le jardin sans sonner, en me disant « Monsieur le maire, j'ai mon voisin qui fait du bruit avec sa tondeuse. Faut vous y alliez, bougez-vous. C'est vous le maire, c'est à vous de vous dépatouiller de ça. » Après, on est appelé sur la nuit pour des situations qui peuvent être dramatiques. Je peux être appelé sur un différend familial qui dégénère avec tentative d'homicide. Vous pouvez être appelé sur un accident grave de la circulation, sur une disparition inquiétante. Enfin, on gère des problématiques de l'urgence, donc il y a pas de routine et le maire est tout le temps sollicité, hein, vraiment. Alors on dit vous êtes le premier représentant de l'État sur les territoires. Moi je pense qu'on est surtout le dernier maillon de l'État dans les territoires. Et aujourd'hui vous avez un État qui se désengage de plus en plus de nos territoires ruraux. Aujourd'hui, vous prenez une commune comme celle-ci, on n'est pas loin de Paris, on est à 65 km. On a des trains directs pour Paris en 40 minutes, donc on n'est pas au fin fond de la France, ni même des territoires ruraux. Et on se retrouve avec dans une commune de 2000 habitants, plus aucun service de l'État. Vous n'avez plus de gendarmerie, encore moins de caserne de pompiers, etc. Donc finalement, pour les gens, quand ils ont une question concernant un acte administratif, enfin ou en lien en tout cas avec les services de l'État, ils viennent voir immédiatement en mairie. Vous devenez presque un bureau d'enregistrement des complaintes des administrés vis-à-vis des services de l'État. Et quand parfois vous n'avez pas les réponses à apporter, vous en prenez immédiatement plein la figure.
En 2018, Pierre-Emmanuel Béni se retrouve à gérer les multiples inondations sur sa commune, alors que le Rue, une petite rivière qui la traverse en souterrain, est en crue. Et il entend la phrase de trop.
J'étais en train de coordonner les secours donc avec les pompiers ou autres. Je passe devant une habitation et là, il y a une dame qui dit « Mais tiens, regardez-moi cet imbécile, il ferait mieux de nous aider à éponger plutôt qu'à se pavaner dans la rue et à serrer des mains. » Ce qui n'était absolument pas le cas. Moi, j'étais debout depuis 5h du matin avec mes équipes et on essayait de coordonner vraiment comme on pouvait pour aider les gens, pour apporter des pompes, des balais, etc. Et finalement, c'était son mauvais jeu de mots, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit « Bon, stop, j'en ai ras-le-bol. » Le soir, je suis revenu dans mon bureau avec notamment Sylvie et je lui ai dit « Cool, j'en ai ras-le-bol, je démissionne, je m'en vais. » Et en fait, pendant presque une heure, on a discuté, mais finalement, elle m'a dit « leur donne pas raison parce que ça serait un constat d'échec de partir là alors que ce qu'on a fait pour la commune est bien, le bilan est bon ». Donc finalement, je l'ai écouté, je me suis dit « ok, mais par contre, cette fin de mandat, en tout cas cette dernière année et demie à peu près, je me suis mis un petit peu plus en retrait de la fonction et je me suis moins impliqué en tout cas en termes de temps et en termes de personnes. »
Je me voyais pas sans lui. Je me voyais pas sans toi. Et j'avais apporté des fraises des bois du jardin. Hein, tu te rappelles?
Oui.
J'ai beaucoup épaulé. On s'épaulait mutuellement, mais comme en fait il pourrait être mon fils, sa maman me disait vraiment, t'es la deuxième maman de Pierre. Et quelque part, ça a été peut-être un petit peu ça.
Pierre-Emmanuel Béni a accepté de rester jusqu'à la fin de son mandat. Après lequel il espère avec Sylvie Montembeau qu'elle prendra sa place. Mais il a déménagé dans une autre commune à 10 minutes de Sassy, où il a acheté un centre équestre avec sa femme. C'est une petite entreprise dont ils ont pris la tête ensemble et à laquelle il se consacrera, au moins pour un temps, une fois l'élection passée. Même si Pierre-Emmanuel Béni est soulagé que tout cela se termine bientôt, il ne regrette pas ces 6 dernières années.
On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, vraiment. Le bilan est bon, les finances sont saines. Donc aujourd'hui, voilà, je me suis préservé peut-être un peu plus ces dernières années, mais ça permettait aussi aux gens de Sassy de garder leur maire, en tout cas jusqu'à la fin du mandat. Aujourd'hui, maire, ça reste un des plus beaux mandats de notre République. Et moi, à titre perso, j'en garderai un souvenir mémorable. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'avec le temps, c'est peut-être humain. Hein, ou en tout cas, la nature humaine est faite comme ça. C'est que les mauvais souvenirs s'estomperont. Et je pense que je ne garderai au final que les bons souvenirs.
Claudia, on dirait que Pierre-Emmanuel Béni t'a raconté son expérience de maire d'une seule traite, comme s'il avait besoin de vider son sac. Tu l'as ressenti comme ça ?
Oui, il avait un peu envie de vider son sac. C'est clair, pour lui, être maire, c'est vraiment insupportable. Et il a envie de raconter pourquoi, parce qu'il trouve, comme il le dit d'ailleurs très bien, que c'est un très beau mandat et qu'il faut protéger cette fonction. Donc il raconte pourquoi lui, il n'a pas pu continuer. Mais si il s'exprime avec autant de facilité, c'est aussi parce que son histoire, il l'a déjà racontée dans un livre qui s'appelle « Crise de maire » qui est sorti au mois de janvier. Et il espère vraiment que ce livre va pouvoir aider chacun à prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontés les maires aujourd'hui et peut-être à faire en sorte qu'elles soient moins nombreuses. Son livre d'ailleurs, il l'a envoyé à Emmanuel Macron et il était assez content quand je l'ai rencontré puisqu'il avait reçu un mot manuscrit du président de la République qu'il remerciait pour l'envoi. Après, c'est pas encore sûr que Emmanuel Macron l'ait lu, ni peut-être même qu'il le lira.
Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous écrire directement, à nous envoyer vos commentaires codesource@leparisien.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.